Tout commence là, in utero. Nous venons tous de là. C'est là que nous sommes nés. Nous avons tous été une cellule, puis deux, quatre, huit, puis des milliards et des milliards de cellules. Nous avons connu l'origine de la vie et nous avons enfoui le souvenir de ces 9 mois passés in utero. Ou peut-être pas. Peut-être avons-nous gardé dans notre mémoire les sons et les voix que nous avons entendus in utero.
C'est donc Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Je trouve ça magnifique. Parce que le chercheur pense toujours « Ah ben non, on ne va pas y arriver, c'est impossible. » Mais il faut tenter, il faut voir, et il ne faut pas avoir peur d'aborder des questions et des domaines qui sont considérés un peu comme sulfureux, comme non scientifiques, comme impossibles à démontrer. Mais tant qu'on cherche, tout va bien.
La vie continue.
La vie continue.
Et c'est ça, en fait, vous êtes une véritable chercheuse. Voilà. Vous n'avez jamais cessé de chercher.
Voilà, j'ai toujours cherché, quel que soit le domaine, j'ai toujours cherché. Et c'est ça qui est amusant. Mais trouver, c'est pas mal non plus.
Ouais.
Mais on ne trouve pas beaucoup, tandis qu'on cherche beaucoup.
Nous sommes toujours avec Marie-Claire Busnel, magnifique vieille dame de 98 ans, chercheuse mondialement reconnue pour ses travaux sur l'audition fœtale. Marie-Claire Busnel m'a reçue chez elle, allongée sur un sofa. Elle était gaie, bavarde, elle souriait, heureuse de raconter ses recherches et ses expériences sur la sensorialité du fœtus. Quand je l'avais contactée, elle m'avait prévenu qu'il ne fallait pas trop tarder. Marie-Claire Busnel est décédée quelques semaines après notre rencontre. Je n'oublierai pas ses yeux bleus vifs et sa liberté de penser. Marie-Claire Busnel a été une pionnière. Elle a été une des premières à s'intéresser à la relation entre la mère et le fœtus. Dans l'archive INA de 1986 que vous allez entendre, Marie-Claire Busnel racontait deux histoires à propos de la communication entre les mères et leur enfant in utero.
Nous avons rencontré un jour une mère qui voulait vraiment que sa grossesse se passe dans les meilleures conditions. Elle et son bébé, et pas de bruit, elle est partie à la campagne, sans télé, sans radio, sans rien, les petits oiseaux, et elle et son bébé. Eh bien, ce bébé, à la naissance, il était terrorisé par tout ce qui se passait. Il ne supportait pas un bruit, il ne supportait pas un klaxon, il ne supportait pas qu'on parle un peu fort, il ne supportait aucune des agressions sonores qui sont la vie normale. Donc, il n'est pas impossible que la vie intra-utérine soit un mode d'apprentissage, soit la période pré-apprentissage qu'a le nouveau-né pour naître au monde avec les capacités de se défendre contre un environnement qui va être le sien. Et que si on exagère, soit dans le sens de trop de bruit ou dans le sens de pas assez de bruit, il est mal préparé à ce que sera sa vie. Et je pense d'ailleurs que si on laissait les mères en contact avec leur bébé, sans leur donner trop de conseils, en leur disant simplement « sentez votre bébé », tout se passerait très bien, parce qu'elles ont un rapport extraordinaire avec leur fœtus. Mais qu'on leur donne tellement de conseils qu'elles finissent par ne plus écouter, mais par seulement lire et écouter les autres, alors qu'elles devraient s'écouter elles-mêmes. Et alors l'autre histoire était une jeune maman qui était animatrice de jardin d'enfants au plan musical. Et quand je l'ai vue, elle m'a dit « Ah, vous comprenez, maintenant, il faut que je fasse très attention parce qu'il y a des musiques que mon bébé aime et il y a des musiques qu'il ne supporte absolument pas. » Et donc, j'ai été obligée de tout à fait changer ma manière ou le type de musique que je passais à mes enfants parce que le bébé ne supporte pas. Donc, il a des moyens d'expression. Quand je lui ai dit « Mais comment savez-vous qu'il ne supporte pas ?» Elle n'a pas su me répondre, mais elle savait. Donc, il y avait dans le comportement probablement moteur du bébé, quelque chose qui lui permettait de dire ben, « ça, il n'aime pas » ou « ça, il aime ». Nous avons eu une maman qui était saxophoniste, elle, et lui était trompettiste. Et c'était leur deuxième enfant, et le premier ne pouvait s'endormir que si les parents s'exerçaient le soir à la trompette et au saxophone.
Quand vous dites que le fœtus aimait ou n'aimait pas telle ou telle musique, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire déjà qu'il avait un sens, qu'il avait une perception, disons, intelligente, entre guillemets, de la musique?
Alors là, faisons très attention. Je n'ai pas dit le fœtus aime ou n'aime pas. J'ai dit la mère a dit que. Donc c'est la perception de la mère de ce qu'elle ressent de son fœtus. Peut-être est-ce exact, peut-être est-ce que le fœtus aime ou n'aime pas, mais ça, nous n'avons aucun moyen de le démontrer. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'une mère qui a vraiment une relation avec son fœtus vous dit « Ah ben, je sais qu'il aime ou je sais qu'il n'aime pas ». Une maman qui m'a dit un jour, elle faisait énormément de voitures pour aller voir son mari qui travaillait en province, je lui ai dit « C'est pas un peu beaucoup de voitures ?» Elle en était au 8e mois et demi. Elle dit « Non, ça n'a aucune importance, mon bébé et moi, on aime la voiture ». Effectivement, elle a été jusqu'au bout, normalement, une naissance parfaite, enfin, il n'y a eu aucun problème, et elle avait vraiment la perception que ça ne pouvait pas être mauvais pour lui. Mais c'est tout ça, ça passe par la perception de la mère. Et un sujet de recherche qui serait très intéressant, ça serait effectivement de savoir sur quoi les mères se basent-elles pour faire ces déclarations que je crois véridiques. Mais pour l'instant, on n'a aucune idée sur la méthode de passage de l'information du fœtus à la mère, ou si c'est simplement dans l'idée des mères.
Marie-Claire Busnel a toujours prêté attention à la parole des femmes enceintes. Elle m'a raconté qu'elle avait passé 10 ans de sa vie à conseiller aux femmes de parler à leur fœtus. Jusqu'au jour où une femme lui a répondu qu'elle n'avait pas besoin de parler à son bébé pour qu'il se comprenne. Cette réponse a été une révélation pour Marie-Claire Busnel. Cette femme avait raison. À ce moment-là, Marie-Claire Busnel a amorcé un virage dans sa pensée. Elle a suivi son intuition et elle a décidé de travailler sur la communication silencieuse entre le fœtus et sa mère. Est-ce que les femmes enceintes communiquent autrement que par la voix avec leur enfant? La chercheuse a mis en place une expérience avec 140 femmes enceintes pour étudier leur mode de communication avec leur bébé. Communication à voix haute et communication silencieuse.
Donc j'ai demandé aux mères qui en avaient envie et qui n'étaient pas contre, est-ce que vous pourriez lui parler par voix intérieure, c'est-à-dire silencieusement? Vous adressez à votre bébé, mais vous n'émettez aucun son.
C'est ça, une communication silencieuse.
Alors ça a eu encore plus de mal à passer, évidemment. Et il y a le même nombre, pratiquement un tout petit peu plus de réactions pour la voix silencieuse que pour la voix parlée.
Alors attendez, ce que vous êtes en train de dire, Marie-Claire Busnel, c'est que quand la mère s'adresse à son bébé qui est dans son ventre, au fœtus, sans dire un mot, en pensant à lui...
En s'adressant à lui, mais silencieusement, dans sa tête.
Le bébé réagit, le fœtus humain réagit.
Ouais.
Comme si elle lui parlait à voix haute.
Oui. Il y a le même nombre de réactions, un tout petit peu plus...
Vous l'avez mesuré encore avec le rythme cardiaque du fœtus, de la même façon?
Exactement de la même façon.
Mais là, on vous a regardé, j'imagine, encore plus bizarrement.
Oui,
parce que
encore pire.
Parce que jusqu'à présent, vous aviez travaillé scientifiquement, vous aviez fait des expériences où on en mesurait, où les choses étaient quantifiables d'une certaine manière. Et là, vous parliez d'une communication invisible.
Oui, mais qui, pour moi, était tout aussi scientifique, puisque... C'était dans la même lancée d'expérimental où je demandais aux mères de lire, de parler à leur fœtus de choses inintéressantes, matérielles, de parler au fœtus émotionnellement et puis de penser, de parler au fœtus silencieusement. Donc c'était tout aussi expérimental.
Mais quelle conclusion vous en avez tirée de cette communication silencieuse, invisible? Qu'est-ce que vous pensez qu'il y a là?
Vous allez m'obliger à me suicider.
Pourquoi?
En disant, je pense que c'est de la transmission de pensée.
Et pourquoi je vous oblige à vous suicider?
Parce que ça ne se fait pas pour une scientifique de parler de transmission de pensée.
Mais c'est pourtant ce que vous avez toujours pensé.
Oui, c'est ce que j'ai toujours pensé. C'est ce que j'ai toujours écrit, c'est ce que j'ai toujours publié. Mais ça ne fait pas sérieux. Mais je m'en fous,
ouais.
Si je peux dire, excusez-moi du vocable. Mais j'ai décidé que j'avais démontré ça, je le démontrais et je l'allais le publier. Et que si ça me donnait mauvaise réputation, tant pis.
Et ça vous a donné mauvaise réputation?
Oh oui, dans certains milieux, oui. Sauf dans certains milieux où j'étais au contraire très accueillie, très choyée. Ah, enfin, on nous démontre quelque chose qui est tangible et qui est scientifique sur un domaine que nous avons toujours préconisé, mais sans arriver à le démontrer de manière à être adopté par les sceptiques.
Quelles conséquences ça a eu à partir du moment où vous avez vu et vous avez démontré qu'il pouvait y avoir transmission de pensée entre la mère et le fœtus? Quel regard, en quoi ça a changé le regard sur le fœtus? Alors, c'est quoi qu'on entend?
Ça, c'est parce que c'est l'heure.
Ah,
excusez-moi.
C'est un oiseau?
C'est une montre parlante, oiseau.
Léla, c'est oui. Ça? C'est assez joli.
Ça scande la journée pour moi.
La vie scientifique de Marie-Claire Busnel a été dominée par une phrase de Claude Bernard. Je vous la lis. Quand le fait que l'on rencontre ne s'accorde pas avec une théorie, il faut accepter le fait et abandonner la théorie. Mais je dois avouer avoir été déstabilisée par Marie-Claire Busnel quand elle m'a parlé de transmission de pensée.
C'est faute de mieux, si vous voulez, parce que en fait, on ne sait pas ce que c'est. On sait qu'il se passe des choses, mais on n'a pas encore, on l'a pas analysé. C'est pas scientifiquement acceptable, etc. Donc, j'utilise transmission de pensée que tout le monde comprend, mais sans en être tout à fait satisfaite, je dois le dire.
Ah oui, parce que c'est un terme un peu ésotérique pour le coup.
Exactement. Et je ne cherche pas à être ésotérique. Moi, j'observe et je dis ce que j'observe. Maintenant, on en fait ce qu'on veut, et je ne pense pas que ça m'ait aidé dans ma carrière scientifique, mais je l'ai fait suffisamment tard pour que ça n'ait plus d'importance. Et je pensais qu'il fallait quand même sortir du bien-pensant et de l'acceptable, et oser dire les choses telles qu'on les voit et telles qu'on les observe.
Oui, parce que transmission de pensée, ça voudrait dire que le fœtus est un être de pensée.
Et pourquoi ne serait-il pas déjà un être de pensée?
Ben, c'est la question que je vous pose.
Je ne peux pas y répondre, mais je trouve l'interrogation assez intéressante pour qu'elle soit posée.
C'est ça. En fait, vous posez des questions. Et vous posez des questions que vous nous posez. C'est ça?
Et je pose ces questions parce que j'ai des connaissances et des observations qui me font penser que... Mais ce n'est qu'une question. Mais je pense qu'elle vaut la peine d'être... mis sur le tapis au moins et étudié honnêtement, sans qu'on dise « oh ben c'est ésotérique, c'est pas la peine d'y penser ».
Comment vous le définiriez, ce lien entre la mère et son fœtus?
Écoutez, le fœtus vit à l'intérieur de sa mère, et d'abord est créé par sa mère et son père, et ensuite il vit à l'intérieur d'elle, donc il est pratiquement impensable qu'il ne ressente pas ses émotions, ses problèmes de santé, tout, les drames qui lui arrivent, etc. Et avec quoi les ressent-il et les mémorise-t-il? C'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore de réponse. Mais il y a beaucoup d'indices, de petites observations, de petites recherches, de petites découvertes qui donnent à penser que il y a déjà, chez le fœtus, un fonctionnement du cerveau, et on ne voit vraiment pas pourquoi pas. Il est en formation, il n'a pas encore les capacités qu'il aura par la suite, mais d'abord il en a peut-être d'autres, et en tout cas, il les a toutes en formation. Ce n'est pas au moment de la naissance que tout d'un coup tout se déclenche et tout se développe. Il est développé in utero, mais pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas déjà des sentiments, des pulsions, et même peut-être des idées.
Qui sait?
Qui sait? C'est encore à démontrer.
C'est ça.
Et j'espère que les générations futures s'y attacheront.
Je voulais savoir, Marie-Claire Busnel, quel avait été le rôle de l'intuition dans votre travail de chercheuse?
Là, vous posez une question à laquelle je pense que personne ne peut répondre, mais si vous voulez, l'intuition, c'est beaucoup dire. Je crois que c'est se laisser aller à élaborer sur ce qu'on découvre pour aller un peu plus loin. Et j'ai toujours été très curieuse, donc quand je découvrais quelque chose, je me disais « Ah oui, c'est bien ça, mais... » Et après ? Et donc c'est ce « et après » qui m'a amenée à aller toujours un peu plus loin. Et l'exemple le plus parlant, peut-être, est le fait que quand on a remarqué que les fœtus réagissaient à la voix maternelle, on a demandé aux mères eh « Si vous parliez avec eux silencieusement. Ah oui, disent-elles, c'est plus facile. Alors que nous, ça nous paraissait demander les choses impossibles. Elles étaient ravies, mais bien sûr, mais c'est que toujours comme ça que je communique avec lui. En fait, je lui parle pas tellement, je lui parle par voie intérieure. Alors j'ai dit, bon, ben alors on va tester cette voie intérieure.
Et ce que vous voulez me dire, c'est que vous avez eu l'intuition de ça?
Est-ce que c'était de l'intuition? Est-ce que c'était la suite du raisonnement? Est-ce que c'était de l'imagination? Je ne peux pas vous dire.
Cette phrase me rappelle quelque chose. Dans la première rencontre d'In Utero avec Jean-Léon Maître, il nous avait dit aussi le rôle essentiel que joue l'imagination dans sa vie de chercheur. Marie-Claire Busnel, elle, aimait explorer l'inexplicable. Elle était convaincue qu'il fallait accepter de tout regarder, même l'invisible. Marie-Claire Busnel voulait garder son esprit ouvert, elle s'y est tenue jusqu'à la fin.
C'est une vie passionnante,
ouais.
Et vous vous êtes bien amusée aussi.
Ah oui, ah oui. Je me suis surtout passionnée, enfin, c'était chaque nouvelle découverte et chaque nouvelle expérience, c'était une merveille. On l'attendait, on avait une nouvelle idée, alors on la testait, et à chaque test nouveau, on était aussi étonnés et admiratifs que tout le monde. On n'y croyait pas au départ. Puis à mesure, on s'est habitué à se dire, bah oui, c'est tout, en fait, il fait tout, il perçoit même des choses que nous ne percevons pas peut-être, etc. Donc on s'est habitué, mais les premières expériences, ça a été une merveille. Toutes ces premières expériences, chaque fois qu'on faisait quelque chose de nouveau, on était émerveillés nous-mêmes. On n'y croyait pas, oui.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que vous-même, vous n'y croyiez pas que le fœtus s'entendait. Enfin, vous n'étiez pas sûr de...
Non, non, pas du tout. Encore que, quand si on avait écouté ce que disait mère, quand il y avait un bruit violent, elle disait le fœtus réagit, il sursaute. Mais personne n'y a pensé ou personne ne les croyait. Enfin, je ne sais pas. On n'écoutait même pas. On ne s'attachait pas à ce que disaient les mères. Puis les mères, par définition, on ne les écoute pas, hein. Ce n'est pas intéressant.
Puis c'est les hormones, c'est tout ce qu'on peut véhiculer sur les femmes, entre les hormones, l'hystérie et le reste, c'est ça?
Exactement. Et tout ce que les mères imaginent de leur bébé, c'est le plus beau bébé, ce qui est vrai. Il est extraordinaire, il sait tout, il perçoit tout. Mais ça, c'est parce que c'est des mères. Ce n'est pas du vrai. Mmh. Ouais. Les scientifiques sont quelquefois difficiles à bouger. Et le corps médical encore plus.
Est-ce que vous savez pourquoi vous vous êtes intéressée à ce sujet-là? Qu'est-ce qui vous touche?
Alors, pour moi, c'est le déroulement logique de ma pensée scientifique. Mais bon... Les psychanalystes vous diront, bah, c'est parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, c'est parce qu'elle le regrette, elle était attirée vers les fœtus parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, etc. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Pour moi, c'était le déroulement logique d'une pensée, de chercheur qui cherche à démontrer quelque chose. Chaque démonstration en amenait une autre question, qui amenait une autre démonstration, qui amenait une autre question. Donc, je dirais presque que ça ne pouvait pas être autrement.
C'est Myriam Ségère qui m'a parlé pour la première fois de son amie Marie-Claire Busnel. Je l'en remercie, c'est une rencontre que je n'oublierai pas. Dans la suite des épisodes d'In Utero, nous quitterons les sciences dures pour ouvrir notre réflexion aux sciences sociales. On s'interrogera sur la place du fœtus dans la psyché, dans l'histoire et dans la société. In Utero est un podcast documenté par Anna Massardier, écrit par Zoé Varier et réalisé par Flora Bernard. In Utero est un podcast original de France Inter.